Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, César Yao.
Bonjour à tous, tout de suite les titres de ce vendredi midi. L'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI a organisé hier jeudi à Abidjan une table ronde à l'endroit des bailleurs de fonds afin de disposer de moyens pour financer les activités du registre national des personnes physiques. Toxi-infection alimentaire collectif avec des cas de mort et Samar Papeko, village situé à 17 km de Gagnoa. Le directeur général de l'INHP, professeur Benier Bivro Joseph, au cours d'un point presse, a annoncé qu'après une investigation sur les lieux, que cette toxi-infection est due à l'ingestion récente d'aliments ou d'eau contenant des bactéries et la population doit faire attention à tout ce qu'elle consomme, prévient le professeur. Dans l'actualité internationale au Mali, plus de 500 personnes exécutées par l'armée et ses supplétifs à Moura en 2022 selon l'ONU. Et puis en fin d'édition, Martin Kakou recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction, professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en relations internationales contemporaines au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ils reviendront sur des aspects précis de la récente visite de travail et d'amitié de 48 heures à Abidjan du président de la République de Gambie, Adama Barrow. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Afin de disposer de moyens pour financer les activités du registre national des personnes physiques, l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI a organisé hier jeudi à Abidjan plateau une table ronde à l'endroit des bailleurs de fonds. Les financements recherchés permettront à terme la prise en charge de 10 projets d'état civil, d'identification des populations et de gestion des flux migratoires. On en sait plus avec Ago Kodia Christian. Il est le directeur général de l'ONESI.
Notre état civil, notre système d'identification, bien que ayant déjà été assez bien structuré, n'est plus adapté à la réalité actuelle. De nombreux registres sont conservés dans des conditions difficiles et sont en état de dégradation. La perte de certains registres ne facilite pas le fonctionnement adéquat de l'état civil. Ces efforts du gouvernement nous permettent aujourd'hui, après la phase pilote dans 21 localités, de vous présenter non seulement le nouveau système entièrement informatisé et digitalisé, mais aussi annoncer le démarrage du déploiement de tous les centres d'état civil du pays qui est en cours en ce moment. C'est en cela qu'aujourd'hui, nous voudrons appeler tous les partenaires nationaux et internationaux qui nous accompagnent déjà, pour beaucoup d'entre eux, à regarder ensemble avec nous l'ensemble des 10 projets et pour pouvoir trouver avec nous et avec certains de leurs confrères les synergies nécessaires pour que l'action de l'ONESI puisse connaître une impulsion plus dynamique et que la constitution du registre national des personnes physiques, RNPP, soit une réalité dans une échéance beaucoup plus brève que si l'ONESI ou si le gouvernement devait le faire tout seul.
Voilà à l'instant Goko Dia Christian, il est le directeur général de l'ONESI. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville tourne à plein régime. Elle vient de tenir son premier conseil d'administration, en marge duquel il a été procédé également à la pose de la première pierre d'un nouveau bâtiment. Un appel à plus de participation des autres États africains a été lancé. Compte rendu signé Mata Touré.
La création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est née d'une initiative franco-ivoirienne portée en 2017. Elle vise à développer les capacités des États de la sous-région à apporter une réponse globale à la menace terroriste, financée dans une première phase à hauteur de 15 milliards de francs CFA. On en est désormais à la phase 2. Une pose de première pierre d'un édifice supplémentaire a ponctué le premier conseil d'administration de l'Académie, où la Côte d'Ivoire est pour l'heure le seul pays africain assiégé, Tene Biraïma Ouattara, ministre ivoirien de la Défense.
Nous avons le souci de procéder à la réalisation de la deuxième phase. Et pour ce faire, au mois de juillet l'année dernière, il s'est tenu à Paris une conférence pour la mobilisation de fonds pour cette deuxième phase. La moisson a été fructueuse, d'autant plus que l'Union européenne s'est engagée à contribuer pour une dizaine de millions d'euros pour la deuxième phase.
À son tour, Chrysola Zakharopoulou, secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie et des partenaires internationaux est revenu sur l'importance cruciale du travail effectué dans cette académie.
Plus de 1000 stagiaires et auditeurs venus d'une trentaine de pays d'Afrique ont déjà bénéficié des formations dispensées ici. Militaires, policiers, magistrats, personnel de l'administration pénitentiaire ou des douanes, je mesure à quel point la lutte contre le terrorisme est au cœur de vos préoccupations.
Un appel a été lancé aux pays de la sous-région pour leur participation plus accrue pour un projet qui les concerne plus au point et qui sont toutes et d'abord le leur.
Toute modification de la loi de 1998 sur la terre en zone rurale doit se faire par une voie impliquant le peuple et non par le gouvernement. Et nous attendons aussi les discussions sur le découpage électoral décrié par l'opposition, a déclaré le porte-parole du PPACI dans sa tribune d'hier jeudi sur le thème découpage électoral, les fonciers ruraux. Compte rendu signé Francis Cassi.
Aussi bien dans son exposé liminaire qu'après, dans ses réponses aux questions des journalistes, le porte-parole du PPACI, Kone Katina, a dit ceci concernant le découpage électoral.
Le découpage électoral, nous croyons qu'ils vont courir cette exil par une voie politique qui règle le problème de façon définitive. Parce que personne n'a intérêt à ce qu'on rentre dans une situation de blocage. L'élection, ce n'est pas la pluie, ça ne surprend pas quelqu'un. C'est programmé. Quand vous leur posez la question, ils vous répondent non, le temps est court. Mais qui a rendu le temps court? S'ils veulent, ils peuvent. S'ils sont d'accord là, nous, on est prêts, ils n'ont qu'à reporter quelques mois et puis on va faire.
Sur le foncier rural, Kone Katina a dû ne pas comprendre pourquoi c'est le gouvernement qui décide maintenant sur la question et non plus la loi de 1998.
La loi de 1998 consacre la reconnaissance des droits coutumiers comme source première de droits fonciers en zone rurale. Avant, toute la procédure était régie par la loi, donc débat législatif. Si on doit modifier, il faut renvoyer le débat à l'Assemblée. Non, ils ont buffé. Maintenant, ils ont dit, toutes ces procédures-là, ça se décrit maintenant en décret pris en Conseil des ministres. C'est-à-dire, c'est le président et son gouvernement qui décident maintenant de savoir comment disposer des terres en Côte d'Ivoire. Un gouvernement ne peut pas s'arroger le droit de se substituer au peuple en légiférant à sa place sur une affaire aussi sérieuse. Le PPACI réclame un débat démocratique et populaire sur le droit foncier rural.
Vu son importance, la question foncière doit préoccuper tous les partis politiques, a ainsi répondu le porte-parole du PPACI quand la presse lui a demandé est-ce que soulever le débat du foncier ne va pas encore enflammer.
Santé à présent, cas de toxi-infection alimentaire collectif d'une mère de 34 ans et ses 4 enfants âgés de 6 ans, des jumelles de 8 ans, dont l'une d'elles est décédée par la suite et une autre de 19 ans, survenue vendredi dernier à Kpapeko, village situé à 17 km de Gagnoa. Un point presse est tenu hier jeudi à l'Institut national d'hygiène publique à Trècheville et lors de cette rencontre, le directeur général de l'INHP, professeur Beignet Bivreau Joseph, a annoncé qu'après une investigation sur les lieux, il ressort que cette toxi-infection est due à l'ingestion récente d'aliments ou d'eau contenant des bactéries, des parasites, des poisons et des métaux lourds. Nous l'écoutons.
À Kpapeko, à la suite de cet épisode malheureux, parmi les 5 personnes, il y a une qui est décédée, mais les 4 autres vont bien. Ils sont actuellement à Meyagi. Il y a 2 qui sont sortis de l'hôpital. Il y a 2 qui ont émergé. Ils arrivent à manger. Bientôt, ils pourront sortir de l'hôpital. Donc, la situation est sous contrôle. Au niveau du village, nous continuons l'investigation. Mais on sait que c'était l'aliment. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Nous avons fait l'investigation. Heureusement, il n'y a personne d'autre dans la communauté qui a mangé ce repas-là, qui est aujourd'hui malade. Donc, tout ça, c'est des éléments qui nous rassurent. Il y avait un problème d'hygiène. Donc, chez nous, à la maison, il faut qu'on respecte les mesures d'hygiène. C'est-à-dire qu'on conserve les aliments dans de bonnes conditions et qu'on puisse laver nos ustensiles. Parce que quand les ustensiles ne sont pas bien lavés, quand on finit de manger, que ça traîne, les rats, les souris viennent souvent les contaminer et ça peut être à l'origine de ces problèmes-là qu'on a connus. Donc, en dehors de ça, les populations doivent aussi se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Et je pense que c'est un geste simple qui sauve que nous devons continuer à respecter. L'autre élément, c'est les pesticides. Nos parents dans les villages utilisent souvent les pesticides, mais de façon abusive. Et les populations ne prennent pas le soin d'éliminer les contenants de ces pesticides-là. Et on a vu des familles en train de préparer, de servir le repas dans les emballages qui ont servi pour les pesticides. Ça peut être à l'origine de ces décès-là. Donc, c'est cette sensibilisation que nous devons faire pour que également le phénomène d'orpaillage, que nous puissions continuer à lutter contre ce phénomène qui aujourd'hui pollue aussi nos cours d'eau. Également, chacun celui doit pouvoir faire de l'assainissement dans son environnement immédiat pour ne pas s'exposer à ces problèmes.
Voilà l'instant, professeur Benyé Bivro Joseph, directeur général de l'INHP. Éducation nationale lancée lundi dernier, la caravane zéro fraude en période d'examen scolaire était hier jeudi au lycée moderne de Cocody. Cette initiative de l'ONG Ta Voix Compte, qui s'est vue être le guichet unique du civisme en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de l'éradication de la fraude et la tricherie en milieu scolaire, comme l'a souhaité le professeur Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Jean-Claude Mabéa a suivi la première étape de cette caravane de sensibilisation. Il nous en parle.
Éradiquer la fraude et la tricherie en milieu scolaire, et particulièrement en période des examens scolaires de fin d'année, semble être difficile, mais pas impossible. Tel est le motif de cette caravane, selon Bou Béranger, le coordonnateur de l'ONG Ta Voix Compte.
D'année en année, la fraude en milieu scolaire gagne du terrain en dépit des moyens colossaux consentis par la tutelle. Donc nous, l'important, en tant que société civile, de pouvoir sonner l'alarme et sensibiliser nos petits frères pour leur dire « écoutez, stop ». Les amis approchent, n'allez pas avec des téléphones, n'allez pas avec des bouquets. Cette caravane fera le tour de plusieurs établissements, publics comme privés, afin de sensibiliser nos jeunes frères sur les dangers liés à la tricherie en période d'examen.
Parrain de cette campagne de sensibilisation, Serge Do a justifié les raisons de son soutien à cette initiative.
Je pense qu'il était important pour nous de nous associer et d'accompagner cette jeunesse qui a besoin de repères, qui a besoin de mentors, qui a besoin de coachs pour les instruire sur la nécessité d'éviter la fraude, de prendre au sérieux leurs études et d'éviter, encore une fois, de mettre leur avenir en danger.
Le message des initiateurs de cette caravane semble être bien perçu par les élèves qui s'engagent à tenir le pari de zéro fraude aux examens de fin d'année scolaire, à en croire Traoré Karim, élève en classe de terminale D au lycée moderne de Cocody.
Et nous comptons, dans un futur proche, mettre toutes les institutions en œuvre concernant zéro fraude en milieu scolaire.
À signaler que cette caravane, qui bénéficie du soutien de l'ensemble des acteurs de la communauté éducative de Côte d'Ivoire, sillonnera plusieurs établissements du pays dans les semaines à venir.
Le groupe de recherche interdisciplinaire pour le développement des espaces ruraux basé à l'université Jean-Leroux Nyongédé de Daloa organise la première édition du congrès universitaire du cacao les 10, 11 et 12 mai 2023. Le thème de ces assises, le cacao, défi national d'une filière stratégique dans la lutte contre la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Eh bien, les enseignants, chercheurs, universitaires et entrepreneurs du secteur de la cacaoculture ont donc invité les planteurs pour rechercher des solutions en vue de promouvoir un cacao durable en Côte d'Ivoire. Compte rendu signé Jean-Noël Kwame.
Invité à prendre la parole au nom des producteurs de cacao, Soro Penatirgué, président de l'Anakachi, a plaidé pour l'amélioration des conditions de vie dans les plantations.
Une telle filière, plus de 6 millions de personnes qui vivent indirectement de la filière cacao, et les paysans sont en train de vivre dans la précarité. Plus de 100 ans qu'on produit du cacao, l'économie cacaoïère génère plus de 120 milliards de dollars. Et c'est 6,34% qui revient aux producteurs. Les producteurs aujourd'hui, ils ont du mal à scolariser leurs enfants, ils ont du mal à se soigner. Nous attirons l'attention de l'industrie cacaoïère de sorte qu'il y ait une répartition équitable des revenus du cacao.
Docteur Nguessan Guillaume, président du comité d'organisation, revient sur les défis à relever pour la réduction de la pauvreté dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire.
Nos systèmes de culture à base de cacao détruisent la forêt, il faut répondre à cette préoccupation. Il y a aussi le défi du travail des enfants dans la cacaoculture. L'économie a été bâtie dans un modèle de dépendance. Avec l'évolution des choses, il faille donc attaquer toute la chaîne de valeur. Il faut mécaniser d'abord la production. Il y a assez de sous-produits du cacao. Le défi, c'est de pouvoir transformer la totalité de notre cacao sur notre sol. En le faisant, on va produire de nombreux emplois. Il est temps donc d'avoir les moyens nécessaires pour transformer notre cacao.
Les travaux de ce congrès dureront 3 jours. Plusieurs panels proposeront des solutions en vue d'améliorer les conditions de vie des planteurs et promouvoir une cacaoculture durable en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Je Juste un mot de l'actualité internationale au Mali voisin. Plus de 500 personnes ont été sommairement exécutées par l'armée. C'est ce plaintif à Moura, dans le centre du pays, en mars 2022. C'est ce qu'affirme un rapport publié ce 12 mai 2023 par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Des cas de viol et autres violences sexuelles sont également rapportés sur au moins 58 femmes et filles. Il affirme également que plusieurs dizaines de personnes interpellées à Moura ont ensuite été atrocement torturés dans plusieurs camps militaires et dans les locaux de la sécurité d'État à Bamako. Les Nations Unies indiquent que le rapport a été préalablement communiqué aux autorités maliennes et russes qui n'ont pas transmis de commentaires à ce jour. À présent, l'invité de la rédaction, Martha Kakouré, soit le professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en relations internationales contemporaines au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il revient sur des aspects précis de la récente visite de travail et d'amitié de 48 heures à Abidjan du président de la République de Gambie, Adama Barrow. Entretien donc.
Professeur Bamba Abdoulaye, bonjour.
Bonjour, madame.
La Côte d'Ivoire et la Gambie sont deux États de l'Afrique de l'Ouest. Le premier est francophone et le second anglophone. Existe-t-il une anecdote de leur relation? Si oui, laquelle?
Alors, cette histoire est relative à la période coloniale. Vous savez que quand vous prenez la géographie du Sénégal et de la Gambie est un pays intégré pratiquement au Sénégal. Et pendant la période coloniale, il a failli avoir échange entre le colonisateur français et le colonisateur anglais en ce qui concerne déjà les deux colonies. La Gambie était convoitée par la France et en échange, la France devait donner la colonie de la Côte d'Ivoire à l'Angleterre.
Des indépendances des années 60 à ce jour, au plan politique et diplomatique, comment se porte la coopération entre ces deux pays?
Il faut dire que jusqu'à la crise ivoirienne, de façon globale, les relations de la Côte d'Ivoire et la Gambie étaient relativement stables. Avec la crise que la Côte d'Ivoire a connue, l'ancien président gambien, Yaya Diame, s'était inscrit dans une dynamique de critique à l'endroit du président Ouattara, ce qui a fait que pendant quelques années, les relations entre les deux pays n'étaient pas au beau fixe. Mais l'actuel président, lui, quand il est arrivé, a essayé plutôt une politique de rapprochement entre Abidjan et la Gambie. Du coup, on dira que les choses se sont plus ou moins stabilisées. Les 20 dernières années, il n'y avait plus de président gambien qui est venu en Côte d'Ivoire. Et donc, l'arrivée d'Adama Barrow vient donc renouveler cette dynamique de visite de coopération entre les deux pays. Et sa visite en Côte d'Ivoire avec la signature de ces accords vient donc confirmer la bonne santé des relations entre les deux capitales.
Justement, la Gambie et la Côte d'Ivoire ont donc décidé de renforcer leurs relations, de les consolider au plan économique et sur les axes de coopération possibles. Trois grands secteurs ont fait l'objet de signatures d'accords. Quelles pourraient être les retombées pour ces deux États?
Il y a essentiellement trois points qu'on peut retenir des conventions. Dans le domaine aérien, au niveau également énergétique, et un cadre général de coopération a été établi entre les deux pays. Au niveau aérien, c'est l'utilisation de l'espace des deux pays et également des aéroports de façon mutuelle. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la question du réchauffement climatique et de la pollution, la tendance est d'aller vers ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Et donc, les deux pays prennent déjà une longueur d'avance en essayant de creuser cette piste pour renforcer les relations dans ce domaine. De façon générale, je dirais que ces trois accords de coopération viennent donc confirmer la bonne santé des relations entre les deux hommes d'abord qui dirigent les deux pays et naturellement entre les deux pays. Après quelques périodes de nuages, cette visite marque un point de départ dans la coopération économique et politique entre les deux pays. Et je ne peux qu'approuver cela, moi qui suis pour le renforcement de la coopération sud-sud. La question du djihadisme au Mali, au Burkina Faso, les questions relatives au coup d'État en Guinée et au Burkina Faso également ont fait l'objet de convergences de points de vue entre les deux pays et les deux hommes. En termes de bilan, c'est un rapprochement entre les deux pays qui va se renforcer dans les mois et les années à venir et je pense que c'est au grand bonheur des deux peuples.
Les deux présidents, Adama Barrow et Alassane Ouattara, lors du point de presse qu'ils ont animé, ils ont insisté sur les élections démocratiques dans certains pays de la sous-région, de la CEDEAO, tels que le Sénégal, le Libéria et la Sierra Leone. Quelle analyse faites-vous?
D'abord, retenez que les deux pays sont membres de la CEDEAO. Et quand un membre de la CEDEAO se trouve dans une situation d'instabilité, cela touche naturellement les autres voisins. Et quand vous prenez la géographie de la Gambie, les élections à venir au Sénégal peuvent être source d'inquiétude pour la Gambie, qui est pratiquement intégrée au Sénégal. Donc, les deux présidents abordent ces questions et essaient de trouver des pistes de solutions qui rentrent totalement dans la dynamique de la solidarité sous-régionale au sein de la CEDEAO. Prenez la carte de la sous-région, vous verrez que la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Libéria, qui fait frontière avec la Sierra Leone. La Gambie fait frontière avec le Sénégal. Donc, nous sommes liés par la géographie et par l'histoire. Et donc, quand vous avez ce genre de situation, généralement en Afrique, vous savez que l'approche des élections, il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de passion qui débouche très souvent sur des violences. Et naturellement, quand vous êtes frontalier avec ce pays, vous vous sentez concerné par ces questions. C'est la même famille sous-régionale et il est bon d'aider ces pays à traverser cette période électorale-là dans la tranquillité pour le grand bonheur de toute la sous-région.
Sans oublier que le Libéria et la Sierra Leone sont deux pays qui ont connu la guerre.
Absolument. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Donc, tout le monde est conscient maintenant que des élections apaisées, transparentes, sont synonymes de stabilité, de développement et de quiétude, et pour le pays, et pour les voisins, et pour la sous-région.
Professeur Bamba Abdoulaye, je vous dis merci.
Merci beaucoup, madame, et à très bientôt.
Voilà, professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférences en relations internationales contemporaines au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny, répondait aux questions de Martin Kakou dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà, qui referme les pages de ce journal. Le rappel des principaux titres à la une de l'actualité. L'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI a organisé hier jeudi à Abidjan une table ronde à l'endroit des bailleurs de fonds afin de disposer de moyens pour financer les activités du registre national des personnes physiques. Toxi-infection alimentaire collectif avec des cas de mort et sa marque Papiko, village situé à 17 km de Gagnoa. Le directeur général de l'INHP, professeur Beignet Bivreau, Joseph au cours d'un point presse, a annoncé qu'après une investigation sur les lieux, que cette toxi-infection est due à l'ingestion récente d'aliments ou d'eau contenant des parasites et des poisons. Et la population doit faire attention à tout ce qu'elle consomme, prévient le professeur. Enfin, dans l'actualité internationale au Mali, plus de 500 personnes exécutées par l'armée et ses supplétifs à Moura en 2022 selon l'ONU. Et c'est la fin de ce vendredi midi. Prochain rendez-vous de l'actualité, 15h, avec un flash d'information. Tout de suite, la revue de presse avec Didier Blé.
Bonjour à tous. Les sujets traités ce vendredi diffèrent d'un journal à un autre et sont légion, mais des points de convergence tout de même.